Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. Fugue. Au programme, la crise du logement serait encore plus difficile pour bien des LGBTQ+. Roger et Théo, citoyens d'honneur. Et la situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023. Bonne écoute.
La crise du logement serait encore plus difficile pour bien des LGBTQ+. Un texte de la presse canadienne, paru le 23 mai 2023 dans le magazine Fugue. Les personnes LGBTQ+, sont plus susceptibles de subir de la discrimination lorsque vient le moment de trouver un logement. Le Québec étant aux prises avec une pénurie de logements, cette recherche peut s'avérer encore plus ardue pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL, à l'automne 2022, le taux d'inoccupation des logements locatifs dans l'ensemble des centres urbains de 10 000 habitants et plus au Québec était de 1,7, le seuil d'équilibre étant établi à 3. Il est donc déjà difficile pour toute personne de trouver un logement, mais des gens issus de l'immigration, des familles monoparentales et des personnes LGBTQ+, se font souvent refuser un logement parce que le propriétaire préférerait un autre candidat. La directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, Julie Fortier, explique que les formes de discrimination subies par les personnes de la communauté LGBTQ+, sont souvent informelles. On entend des histoires selon lesquelles des personnes qui vivent ce genre de discrimination ne seront pas choisies en premier pour un logement, indique Mme Fortier. Le fait qu'une personne à la recherche d'un logement soit homosexuelle ou trans, ce n'est pas ce qui va faire en sorte qu'elle va payer son loyer ou qu'elle sera une bonne locataire ou non, fait-elle valoir. Je pleurais au téléphone. Une femme trans, qui préfère qu'on ne mentionne pas son nom en raison de ses démarches auprès de la Commission des droits de la personne, a ressenti un énorme stress au moment de chercher un logement. S'étant récemment séparée de son conjoint, cette personne devait rapidement trouver un logement. Après 3 semaines de recherche ce printemps, elle a trouvé un logement en sous-location, mais les choses ont mal tourné. Après avoir signé les documents de sous-location, dont cette personne n'a pas copie, le propriétaire a dit souhaiter qu'elle signe un nouveau bail pour le 1er juillet. Même si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il avait le droit de me demander, j'ai quand même accepté, parce que j'avais vraiment besoin d'un logement, raconte-t-elle. En conversation, au téléphone avec le propriétaire, celui-ci aurait dit qu'il pensait louer l'appartement à des filles et que ça ne le mettait pas à l'aise. Je lui ai dit que je suis une femme trans. Cette personne a appris qu'elle n'avait pas l'appartement lorsque le locataire précédent, dont elle comptait racheter quelques meubles, lui a dit que le propriétaire avait décidé de le louer à quelqu'un d'autre. Au téléphone, il m'appelait juste par mon ancien prénom. Je lui ai demandé plusieurs fois de m'appeler par mon prénom actuel et il ne voulait rien savoir. Je pleurais au téléphone. Je n'avais nulle part où aller. Une citation d'une locataire trans et conduite. Par miracle, j'ai trouvé un autre appartement le jour même où je devais déménager de mon appartement précédent, relate-t-elle. Elle ajoute qu'au téléphone, elle a demandé désespérée au propriétaire s'il avait d'autres appartements à louer. Il lui aurait répondu « pas pour vous ». Ce qu'a vécu cette personne, notamment l'utilisation du mauvais prénom, est un exemple de micro-agression, indique Mme Fortier. Pour les personnes qui vivent des formes de discrimination, ça peut devenir quotidien, évoque-t-elle. Une personne trans pourrait tenter de le camoufler et une personne homosexuelle peut éviter de faire référence à sa vie amoureuse justement pour ne pas mettre en lumière le fait qu'il y a peut-être une différence, explique Mme Fortier. Elles utilisent ces mécanismes de défense, mais cachent ainsi qui elles sont vraiment. Des solutions difficiles à appliquer. Aurélie Dauphinet, membre du conseil d'administration de Jeunesse Lambda, un organisme montréalais à but non lucratif créé pour et par les jeunes de la communauté LGBTQ+, estime que le système de justice fait parfois défaut. J'aimerais pouvoir dire que les propriétaires ne font pas de discrimination par rapport à l'identité de genre ou sexuelle. C'est illégal, mais c'est quand même dur de pouvoir défendre ce droit-là. Donc, c'est possible qu'un propriétaire remarque qu'une personne est transgenre et ne veuille pas l'avoir dans son logement, mentionne-t-elle. Les personnes qui subissent toute forme de discrimination en rapport avec le logement peuvent se tourner vers le Tribunal administratif du logement, TAL, ou encore vers la Commission des droits de la personne. Malheureusement, la manière dont la preuve doit être établie, comment on peut prouver qu'il y a discrimination, disons que ce n'est pas vraiment fait pour les locataires, parce qu'au final, il faut vraiment qu'un propriétaire dise ouvertement « Je ne veux pas te louer l'appartement parce que tu es une personne transgenre ». Ce doit être à ce point-là, noir et blanc, pour qu'un recours soit possible, affirme Céleste Trianon, également impliquée auprès de Jeunesse Lambda. Selon elle, faire des inspections et créer des formations obligatoires pour les propriétaires sont des solutions qui pourraient prévenir la discrimination. Actuellement, la porte est assez ouverte pour qu'une personne puisse se faufiler entre la loi et honnêtement. Ça ne devrait pas être comme ça, se désole Mme Trianon. Vous écoutez? La crise du logement serait encore plus difficile pour bien des LGBTQ+, un texte de La Presse canadienne paru le 23 mai dans le magazine Fugue. Plus d'itinérants LGBTQ+. Les populations issues de la communauté LGBTQ+ sont par ailleurs surreprésentées dans le portrait de l'itinérance. La fragilisation sociale associé à la transphobie et à l'homophobie, peut conduire à l'itinérance, indique un document de 2022 du ministère de la Santé du Québec intitulé « L'itinérance au Québec, deuxième portrait ». Dans son enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, Statistique Canada indiquait que les personnes LGBTQ+ sont plus susceptibles que les autres d'avoir connu l'une des formes d'itinérance ou d'insécurité au regard du logement. Elles ont trois fois plus souvent été hébergées dans un refuge d'urgence ou passé la nuit à l'extérieur que les Canadiens cisgenres hétérosexuels, soit 6 % contre 2 %. En plus des problèmes généraux reliés à l'itinérance, les personnes LGBTQ+ ont leur propre lot de difficultés. Par exemple, une femme trans ne va pas nécessairement pouvoir se présenter dans un refuge pour femmes ou dans un dortoir pour femmes, affirme Aurélie Dauphinet. Ça reste une population qui est vulnérable. Elle peut être aux prises avec de la discrimination, que ce soit de la part des usagers dans les refuges ou même parfois des intervenants, malheureusement. Mme Dauphinet ajoute que des refuges établissent de plus en plus des protocoles de manière à mieux accueillir ces personnes. Ça reste un risque de violence, nuance-t-elle. Moi-même étant travailleuse dans un refuge, je n'ai jamais vu de violence physique, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires désobligeants à l'encontre des usagers qui sont visiblement LGBTQ+. Mme Trianon est aussi critique à l'endroit des ressources qui sont pourtant mises en œuvre pour aider. Je vois des jeunes qui quittent des centres jeunesse ou des maisons de groupe pour pouvoir mieux s'affirmer dans leur identité de genre, ce qui prouve que parfois, même le filet social, c'est comme s'il était tranchant, dit-elle. Les deux femmes impliquées auprès de Jeunesse Lambda souhaitent qu'un refuge réservé exclusivement aux populations LGBTQ+ voie le jour à Montréal. Actuellement, il n'existe pas de refuge ou de maison d'hébergement exclusif aux personnes LGBTQ+, en situation d'itinérance au Québec. En Ontario, la YMCA's Sprott House de Toronto, la première maison d'hébergement pour les jeunes LGBTQ2S, est ouverte depuis 2015. C'était « La crise du logement serait encore plus difficile pour bien des LGBTQ+, un texte de la presse canadienne paru le 23 mai dans le magazine Fugue. Roger et Théo, citoyens d'honneur. Un texte de André-Constantin Passiour, paru le 16 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le 15 mai 2023, dans la foulée de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, avait lieu une cérémonie de remise de citoyenneté d'honneur aux activistes Théo Wouters et son mari Roger Thibault. Le duo a été le premier couple de personnes de même sexe à s'unir civilement. Roger, 77 ans, et Théo, 81 ans, ont aussi été victimes d'harcèlement en raison de leur homosexualité par des voisins à Pointe-Claire où ils résident depuis 1979. Le tout se déroulait au majestueux édifice Lucien Saunier, qui sert d'hôtel de ville depuis quelques années, et la cérémonie était présidée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Valérie Plante a souligné dans son allocution que Roger Thibault et Théo Wouters, qui est originaire de la Hollande, se sont unis civilement le 18 juillet 2022 au Palais de justice de Montréal. C'était la première fois qu'un couple s'unissait civilement au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, a noté la mairesse. Valérie Plante n'a pas manqué de souligner aussi que, en 2001, plus de 4000 personnes avaient manifesté en soutien au couple qui était victime d'actes homophobes à Pointe-Claire. On se souviendra qu'en mai de cette année-là, une vingtaine d'autobus étaient partis du village en direction de la demeure du couple pour les appuyer dans leur combat contre des voisins homophobes. En plus des insultes et menaces, le couple avait vu des feux d'artifice être tirés sur leur maison, des pierres avaient été jetées à travers les vitres, tandis que leur voiture avait été endommagée à plusieurs reprises par des gens du voisinage. Avec dignité, ils se sont battus contre l'homophobie, a indiqué la mairesse Plante. Vous êtes une source d'inspiration pour plusieurs d'entre nous. C'est grâce à des personnes comme vous deux que nous avançons, a rajouté Valérie Plante. La Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie demeure essentielle. La lutte contre la discrimination doit continuer. Notre administration demeure engagée dans la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA, a-t-elle dit en mentionnant le travail de sensibilisation effectué, entre autres, dans la formation des policiers et policières de la ville. « Nous sommes profondément touchés par cet honneur », a déclaré pour sa part Théo Wouters dans un très court discours. Il a remémoré le combat pour les droits de la communauté LGBTQ+, durant les années 1970, alors que Mme la mairesse n'était même pas encore née, a lancé en face Théo Wouters, ce qui a fait beaucoup rire Valérie Plante et l'assistance. Paraphrasant presque Martin Luther King Jr., Théo Wouters a mis de l'avant le rêve du couple, qui était qu'il n'y ait plus de discrimination à l'égard de la communauté, et ce, de notre vivant, nous aimerions voir cela. Le couple a reçu une ovation debout de la part du public présent avant de signer le livre d'or de la ville, un moment touchant alors que, gravement atteint par la maladie et en chaise roulante, Roger Thibault a apposé sa signature d'une main tremblotante. Le couple avait été honoré également lors de la remise d'un prix de la Fondation Émergence au secrétaire d'État aux transports des États-Unis, Pete Buttigieg, au mois de septembre 2022. Fait à noter Roger et Théo célébreront leur 50e anniversaire de couple au mois de décembre prochain. On pouvait voir également, lors de cette cérémonie, Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Baudry, membre du comité exécutif et conseiller du district de Saint-Jacques, le territoire du village, ainsi que Michael Pollack, le consul honoraire des Pays-Bas à Montréal. Parmi les invités, on remarquait aussi, entre autres, Patrick Desmarais, le président de la Fondation Émergence, Simon Gamache, le directeur général de Fierté Montréal, ainsi que le compositeur et musicien Christian Thomas. C'était Roger et Théo, citoyens d'honneur, un texte de André-Constantin Passiour, paru le 16 mai 2023 dans le magazine Fugue. La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023. Un texte de Logan Cartier, paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Au cours des 30 dernières années, 49 États membres des Nations Unies ont dépénalisé les actes consensuels entre personnes de même sexe, selon les données publiées à la fin mars 2023 par ILGA World. Toutefois, les lois réprimant ces actes restent une réalité pour un tiers des pays dans le monde. Ces données et bien d'autres sont disponibles dans la base de données de ILGA World, une plateforme lancée aujourd'hui par ILGA World et qui compile les lois, les nouvelles et les références aux organes de défense des droits humains et aux possibilités de plaidoyer auprès des Nations Unies pour les personnes LGBTI dans le monde entier. Dorénavant, grâce à cette plateforme gratuite, interactive et collaborative, tout le monde peut suivre les progrès actuels et les revers concernant les questions d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles dans 193 États membres des Nations Unies et 47 territoires non indépendants. Des avancées durement acquises ont lieu dans de nombreux États membres des Nations Unies. 7 d'entre eux ont introduit des restrictions nationales aux interventions inutiles sur les mineurs intersexes. 20 autorisent la reconnaissance légale du genre basée sur l'autodétermination. 11 d'entre eux interdisent les thérapies de conversion sur le plan national. Le mariage égalitaire est désormais une réalité dans 33 États membres des Nations Unies. Les lois qui protègent les personnes contre les crimes de haine en raison de leur orientation sexuelle existent dans 58 États membres des Nations Unies, mais seulement 37 le font sur la base de l'identité de genre, 9 sur la base de l'expression de genre et 5 sur la base des caractéristiques sexuelles. Il a toujours été difficile d'obtenir des données sur les populations LGBTI, historiquement exclues, non comptabilisées et non représentées, explique Lucas Ramon Mendoz, coordonnateur à la recherche à l'ILGA World. S'appuyant sur les 4 décennies d'expérience de notre organisation dans la compilation de ce type d'informations, ILGA World les partage désormais avec tout le monde en donnant un accès gratuit à une plateforme fondée sur des données et des recherches et qui systématise 4300 sources juridiques et plus de 7000 références provenant des mécanismes des Nations Unies. La base de données de ILGA World présente des informations mises à jour sur les lois, y compris les décisions judiciaires, les ordres exécutifs et les projets de loi en cours d'élaboration, qui affectent les personnes LGBTI dans le monde entier, réparties en 18 catégories juridiques et plus de 100 sujets, et visualisées sur des cartes interactives mondiales et régionales. Chaque État et juridiction dans le monde à son propre profil avec les lois, les occasions de plaidoyer à venir pour les défenseurs des droits humains et une sélection des dernières actualités LGBTI. Les militants peuvent suivre les développements dans chaque organe des droits humains au sein des Nations unies, surveiller les délais pour s'engager auprès d'eux et intégrer toute entrée dans leur travail de recherche ou d'élaboration de politique. Les organisations de base ne peuvent souvent compter que sur peu de ressources pour se tenir au courant des développements mondiaux ou pour trouver des informations qu'elles peuvent utiliser dans leur travail de plaidoyer ou de campagne, commente Julia Hurt, directrice exécutive d'ILGA World. La base de données de ILGA World met entre leurs mains une puissante source d'informations. Un simple coup d'œil aux données suffit pour constater que la véritable égalité est encore très loin d'être atteinte pour de nombreuses personnes LGBTI dans le monde. 6 États membres des Nations unies imposent légalement la peine de mort pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe et il n'y a aucune certitude juridique quant à son application dans 5 autres États. Au moins 51 pays imposent des restrictions à la liberté d'expression sur les questions de diversité sexuelle et de genre, y compris dans les milieux éducatifs. En termes simples, ces données parlent et fournissent à tous ceux qui y accèdent les éléments de preuve manquants sur la façon dont les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes sont encore laissées pour compte dans de nombreux domaines de la vie, commentent Luz Elena Aranda et Twizina Imania Brown, co-secrétaires générales de ILGA World. Grâce à la base de données de ILGA World, nos réalités vécues peuvent être documentées. Des programmes et des services peuvent être plaidés. La base de données met en lumière des données précieuses qui manquent dans le plaidoyer actuel en faveur des personnes LGBTI. En les associant à nos histoires et à notre activisme, nous ferons du monde un endroit meilleur et plus égalitaire pour nos communautés LGBTI globalement. Vous écoutez La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023, un texte de Logan Cartier paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Chiffres clés provenant de la base de données de ILGA World, données extraites à la fin mars 2023. Criminalisation. 64 États membres des Nations unies criminalisent les relations consensuelles entre personnes de même sexe. 62 d'entre eux criminalisent de jure, loi criminalisant les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe. 2 criminalisent de facto, dans la pratique en s'appuyant sur d'autres lois. La peine de mort est la peine légalement prescrite pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe dans 6 États membres des Nations unies. Brunei, Mauritanie, Iran, Nigeria, 12 provinces, Arabie saoudite et Yémen. Dans 5 autres États, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie et Émirats arabes unis, il n'existe pas de certitude juridique totale. Liberté d'expression et liberté d'association. Au moins 51 États membres des Nations unies disposent de lois, de règles et de réglementations qui interdisent les formes d'expression liées aux questions de diversité sexuelle et de genre. Dans au moins 11 d'entre eux, les lois sont spécifiquement conçues pour s'appliquer à l'éducation, et dans 25 d'entre eux, elles réglementent spécifiquement les contenus diffusés par les médias. Au moins 55 États membres des Nations unies présentent des obstacles juridiques à l'enregistrement et au fonctionnement d'organisations défendant ouvertement les droits des personnes LGBTI. Protection constitutionnelle contre la discrimination. États membres de l'ONU dont la Constitution prévoit une protection contre la discrimination. Basée sur l'orientation sexuelle, 12. Basée sur l'identité de genre, 5. Basée sur l'expression de genre, 1. Basée sur les caractéristiques sexuelles, 0. Thérapie de conversion. 11 États membres des Nations unies interdisent les thérapies de conversion à l'échelle nationale. En outre, 7 ont des réglementations indirectes et 6 ont des interdictions sous-nationales uniquement. Mariage et adoption. Le mariage égalitaire est une réalité dans 33 États membres de l'ONU et à Taïwan. Les couples de même sexe peuvent adopter un enfant ensemble dans 33 États membres de l'ONU. Une personne faisant partie d'un couple de même sexe peut adopter l'enfant de son partenaire dans 35 États membres de l'ONU. Intersexe. 7 États membres de l'ONU interdisent les interventions médicales non vitales sur les enfants intersexes. Reconnaissance légale du genre. 20 États membres de l'ONU autorisent la reconnaissance légale du genre sur la base de l'autodétermination à l'échelle nationale. Dans les 4 autres, elle n'est une réalité que dans certains États ou provinces. Les marqueurs de genre non-binaires dans les documents d'identité sont disponibles dans 20 États membres de l'ONU au maximum. Info ILGA World, ilga.org. C'était la situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023, un texte de Logan Cartier paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.